La plume.
La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde
de la faune sauvage Cosona.
Chaque deuxième mardi du mois à 18h,
nous vous présenterons les activités et la vie de l'association. La plume. La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cosona.
Vous arrive-t-il de nourrir les petits oiseaux en hiver pour les aider à survivre pendant la période du froid ? Vous êtes nombreux à le faire parce que vous avez conscience des problèmes que peut encourir la biodiversité ou tout simplement pour le plaisir de les observer. Mais connaissez-vous les différentes espèces que vous pouvez regarder ?
Pourquoi et comment nourrir les oiseaux ? Alors, on nourrit les oiseaux pour les aider, mais pas pour les piéger, les empoisonner ou favoriser la transmission de maladies. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, en fonction de ce qu'on va leur donner à manger, où on va leur donner à manger et comment, cela peut avoir l'effet inverse de ce qu'on voulait au départ. Donc, lorsque les températures baissent, la nourriture devient de plus en plus difficile à trouver et du coup, le taux de mortalité augmente. C'est pourquoi il est important de déposer de la nourriture. Alors les différents points donc, que je vais aborder, c'est la disposition de la mangeoire qui est très importante. Parce que les chats et tous les prédateurs vont vite repérer les allées et venues sur ce point de nourrissage. Du coup c'est important de déposer la nourriture en hauteur. Donc on peut mettre une mangeoire, ce qui est bien c'est sur un piquet, sinon sur un arbre. Mais dans ce cas-là il va falloir peut-être penser à protéger le tronc pour éviter que les chats puissent monter. Ou encore, il y a la solution de suspendre la mangeoire. Après, par rapport à l'alimentation qu'on va donner, il faut éviter les boules trop graisseuses, le pain dur ou la viande. Il faut préférer donner soit des mélanges de graines pour oiseaux, sinon des épluchures de fruits de compost, en fait. Après, il y a les graines de tournesol qui sont particulièrement appréciées par les oiseaux. Et faut s'abstenir totalement de tous les aliments sucrés ou salés, quoi. Les petits gâteaux, ça va pas. Après, il y a quand nourrir. Alors, quand les températures elles remontent, il faut stopper l'approvisionnement progressivement. En fait, durant l'hiver, il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de passages qui vont avoir lieu sur cette mangeoire. Du coup, il y a une concentration d'individus au même endroit et ça peut faire des problèmes sanitaires. Donc quand il commence à faire chaud, qu'il n'y a plus de gelée, il faut arrêter de nourrir parce que il peut y avoir des développements de bactéries, de maladies pour les oiseaux. Et c'est préférable de nettoyer sa mangeoire à la fin de l'hiver, avant la saison suivante.
En ce qui concerne le nourrissage, une bonne partie vient d'être dite. Maintenant, on va vous présenter un petit peu toutes les espèces que vous pouvez rencontrer pendant cette période. Alors, pour commencer, dans une première partie, ça va être les habitués. Donc, ce sont à peu près les oiseaux que vous reconnaissez le plus, ceux que vous connaissez. Alors, en premier, on aura le moineau domestique. Donc par ce chant-là, tout le monde sait exactement de quoi on parle. Au niveau de la reconnaissance, c'est pas spécialement compliqué puisque c'est quand même le domestique, donc c'est celui qu'on côtoie le plus parmi nous. Donc les femelles et les jeunes sont plutôt pâles, colorés de brun et de gris, alors que le mâle a un teint beaucoup plus vif avec des marques noires, blanches et brunes. On reconnaît un petit peu, tout le monde sait différencier le mâle de la femelle en majorité. C'est quand même un oiseau qui mesure 16 cm de long et qui a un poids qui va de 24 à 39,5 grammes. Donc c'est une petite, une petite bestiole. Les moineaux sont quand même granivores essentiellement, ils se nourrissent de graines et de céréales. Ils sont plutôt opportunistes, ce qui n'est pas particulièrement étonnant concernant la faune sauvage. Et c'est vrai que pendant la reproduction, l'alimentation des jeunes oisillons, ils vont se nourrir, eux, et ainsi nourrir leurs jeunes avec des invertébrés, donc des insectes. Le plus gros problème du moineau domestique, c'est la prédation par les chats. Donc nos chats, qui s'amusent pas mal à les ramener sur les tapis à la maison. D'où la protection dont parlait Hélène des arbres et les rapaces. Donc les rapaces comme l'épervier d'Europe qui chasse pas mal les petits passereaux. Ensuite, dans ceux que nous connaissons énormément, ça va être le rouge-gorge familier. Donc c'est son nom complet, rouge-gorge familier aussi. Alors, il n'a pas beaucoup de choses à démontrer. Tout le monde sait à quoi il ressemble, tout le monde l'a connu. C'est vrai que la population est en forte régression. Je me souviens, quand j'étais très jeune, j'en voyais énormément, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt rare. Je suis même très contente quand j'en croise un. Ce qui est marrant, et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi rouge-gorge quand la gorge est orange? Alors, il a été appelé rouge-gorge bien avant le XVIe siècle, puisque la couleur orange n'a été appelée orange que à partir de là. Donc, c'est resté rouge. Ensuite, c'est un oiseau que peut-être dont vous ne connaissez pas forcément le nom, mais que vous reconnaissez vraiment par rapport à son allure. C'est le chardonneret élégant. Alors, pourquoi vous le reconnaissez facilement? C'est parce que, tout simplement, l'adulte a la face rouge écarlate, qui est entourée de blanc et de noir. Donc c'est un oiseau qui se repère quand même facilement de loin. Il a le dos et les flancs bruns, la queue noire avec des taches blanches, et le croupion blanc. C'est quand même un oiseau qui se cache pas énormément. Le plumage de ses ailes est noir rayé. Il mesure à peu près entre 20 et 25 cm d'envergure, 12,5 à peu près de longueur, et pèse entre 14 et 18 grammes.
Donc moi, je vais vous parler de la mésange charbonnière qu'on croise très souvent. C'est la plus grosse des mésanges qu'on peut rencontrer. Alors, c'est une espèce cosmopolite donc qu'on retrouve partout en France. On la trouve dans les campagnes, mais aussi en ville, à partir du moment où il y a des arbres et arbustes, donc dans les parcs ou les jardins. Elle a la tête noire et puis des grandes joues blanches. Et pour déterminer le sexe, en fait, il y a juste la bande noire ventrale qui est beaucoup plus large chez le mâle. Qu'on retrouve aussi beaucoup sur les mangeoires, c'est la mésange bleue, donc plus petite. Elle est peu farouche, on la voit vraiment souvent, on peut l'approcher même à quelques mètres. Elle a la calotte bleue et le plumage teinté de bleu. Les deux sexes sont semblables, même si certains ont tendance à dire que le mâle est plus bleu, que le bleu est plus intense, mais bon. Voilà, après on la retrouve en ville et en campagne aussi, mais il y a beaucoup plus de reproduction en campagne parce qu'il y a plus de chenilles pour nourrir les jeunes.
Alors nous allons reprendre notre description d'oiseaux que vous pouvez croiser à la mangeoire avec les plus grosses espèces. On va commencer avec une espèce que les gens connaissent vraiment, qui reconnaissent très facilement. Par contre, son chant, en général, est plutôt confondu. La tourterelle turque. Alors du coup, la tourterelle turque, elle mesure environ 32 cm de long. Elle peut peser jusqu'à 240 grammes. Elle a une couleur beige pâle avec un collier plutôt blanc. Et ensuite, les deux sexes se ressemblent énormément. C'est assez difficile de les différencier. La seule différence qu'on pourra observer, c'est le comportement pendant la période de reproduction. À savoir aussi que vous... Même si les deux sexes, vous ne pouvez pas forcément les différencier, vous pouvez voir les jeunes très facilement, ils n'ont pas de collier. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la tourterelle turque s'alimente de graines, de baies et de bourgeons. Et quand elle va à la mangeoire en hiver, moi je la traiterais un petit peu de poule, parce qu'elle mange quand même facilement les déchets de cuisine. Voilà, donc c'est surtout d'elle qu'on parle quand on vous dit que vous pouvez mettre des fruits et des légumes. Ensuite, on va vous parler d'un oiseau aussi qui est très très connu. Lui, je pense qu'il n'a même pas besoin de vraie présentation, c'est le merle noir. Alors, le merle noir, bon, évidemment, comme son nom l'indique, il est tout noir. Principalement en période de reproduction, mais bon, ça s'observe quand même pas mal. Il a un bec jaune à orangé. Et puis, il a un petit anneau jaune autour de l'œil. La particularité du merle, c'est qu'il est quand même omnivore. Donc, il va manger vraiment un petit peu de tout, des vers, des insectes ou des fruits. Au niveau de la taille, il paraît très souvent gros, mais... il l'est. Il l'est pas mal, donc il peut aller jusqu'à 30 cm et peser jusqu'à 125 grammes.
Je vais maintenant vous parler de l'étourneau sansonnet, un tout petit peu plus petit que le merle noir. Il va faire environ 20 cm et un poids de à peu près 60 à 90 grammes pour une envergure de 37 cm. L'étourneau est omnivore. Et il mange principalement des insectes, donc il mange beaucoup de petits invertébrés qu'il cherche dans le sol en creusant avec son bec, et aussi des fruits. Alors c'est un oiseau qui est souvent pas aimé car très bruyant, surtout quand ils se regroupent en dortoir ou pour partir en migration ou tout simplement pour se nourrir parce qu'ils sont en groupe. Après, une espèce particulière, c'est le gros bec casse-noyau. Alors, je ne vais pas m'étaler sur la description, parce que ce qui le caractérise, en fait, c'est son gros bec, comme son nom l'indique. Il a vraiment un bec démesuré, très large, qui a une couleur noire bleutée au printemps et jaunâtre à l'automne. C'est un oiseau qui est assez farouche et méfiant, donc on ne le voit pas souvent ou alors de loin. Ce qui est intéressant voilà, chez cette espèce, c'est la parade nuptiale qui se termine par un baiser entre les deux partenaires, pendant lequel en fait, les deux, le mâle et la femelle restent collés par le bec.
On va continuer avec des espèces qui sont un petit peu moins connues. Ceux qui s'intéressent vraiment à l'environnement pourront les identifier facilement. Mais après, c'est vrai que ce sont plutôt des oiseaux qu'on entend, mais qu'on repère pas facilement non plus. Le premier, ça va être le verdier d'Europe, qui est de la même famille que le chardonneret élégant, dont on parlait tout à l'heure. Alors, le verdier, c'est pas compliqué. Vous cherchez un oiseau vert, c'est lui. J'exagère un peu, il n'est pas spécialement vert-vert, mais il est quand même d'un vert jaune un petit peu olivier, avec des taches jaunes vives sur les ailes et sur la queue. Il a quand même des taches jaunes un petit peu moins vives sur la tête, le ventre et les flancs. La femelle, par contre, pourra être un petit peu plus sombre, moins verte que le mâle. Elle aura un petit peu plus grise aussi, avec des taches jaunes, mais beaucoup moins nettes que celles du mâle. L'espèce mesure entre 14 et 15 cm de longueur et peut peser jusqu'à 35 grammes. Il est plutôt trapu avec une grosse tête et un bec pas très épais. C'est quand même une espèce qui est en fort déclin, qui a beaucoup de mal à survivre et... Moi, je dirais, même dans les centres de sauvegarde, quand on en reçoit, ils ont beaucoup de mal à survivre. C'est une espèce très, très compliquée. Ensuite, on passera quand même à une autre espèce que moi, j'aime beaucoup. C'est la fauvette à tête noire. Alors, la fauvette à tête noire, c'est tout simplement comme son nom l'indique aussi. Il suffit de chercher un oiseau avec une petite calotte noire au-dessus de la tête et qui sera brune, voire rousse, pour les femelles et les jeunes. C'est très facilement repérable quand on observe un tout petit peu, quoi. La fauvette est quand même migratrice partielle. Donc c'est vrai que certains individus vont partir en Afrique tropicale, mais d'autres vont rester en Europe. Donc on peut quand même le croiser pendant la période hivernale. C'est un oiseau qui se nourrit d'insectes pendant la période de reproduction et en juillet, août, bref pendant l'été, elle passe aux fruits. Donc les fruits aident pas mal les fauvettes à s'engraisser avant la migration. Donc c'est ce qui leur permettra un tout petit peu de survivre, quoi. Ensuite, on passera au pinson des arbres. C'est vrai que le nom est peut-être un petit peu plus connu. Voilà, donc c'est vrai que ce chant-là, par contre, les gens le repèrent assez facilement. Ils se demandent souvent qu'est-ce que c'est. Moi, je l'ai vu crier, faire ce petit cri-là à la pointe des arbres. Donc, je dirais, regardez en haut. Quand vous entendez le cri. Donc c'est une espèce, comme toutes les autres, protégée en France. Sa particularité se trouve dans son nom latin, qui est quand même Fringilla coelebs. Le latin, on le prononce comme on peut. Alors du coup, coelebs vient du nom, en latin toujours, qui signifie célibataire. Ça veut dire que quand ils sont en Suède, si vous voulez, les femelles et les juvéniles migrent, alors que les mâles restent sur place. Donc c'est un oiseau qui est plutôt basique au niveau des couleurs, au niveau du corps, mais qui aura les ailes d'une couleur assez particulière, un petit peu vert, marron, blanc, moucheté quand même. Ça se repère pas mal. Il suffit juste d'observer quand il s'envole. Si on voit pas mal de taches blanches au niveau des ailes, c'est très sûrement un pinson des arbres.
Moi, je vais continuer à vous parler des mésanges. Comme tout à l'heure, j'ai présenté rapidement la mésange charbonnière et la mésange bleue. Donc, je vais vous parler un petit peu des autres, de la famille des paridés. Parce que les mésanges font partie des oiseaux les plus communs. Donc, c'est des petits oiseaux colorés qui sont très actifs et pas très farouches, qu'on croise souvent et dans quasiment tous les milieux et aussi dans les villes. Alors, déjà, la mésange nonnette. Alors, la mésange nonnette, on peut la croiser dans les mangeoires en hiver. C'est une espèce qui fréquente surtout les forêts de feuillus aussi. Donc, on ne la retrouve jamais dans les forêts de résineux. Mais on peut aussi la trouver dans les villes, dans les parcs et jardins. Elle fait à peu près la taille d'une mésange bleue, sauf qu'elle est beaucoup moins colorée. Elle a une calotte noire qui descend jusqu'à la nuque, un petit menton noir sous le bec et puis les joues blanches. Et il n'y a pas de dimorphisme sexuel, donc on ne peut pas identifier les mâles des femelles. Ensuite, la mésange à longue queue, un petit peu plus particulière. Donc c'est une petite mésange qui a la particularité d'avoir une queue à démesurer. Comme la mésange nonnette, les deux sexes sont semblables, on ne peut pas les identifier. Et elle aussi, on la retrouve dans les forêts de feuillus particulièrement, mais on peut aussi en trouver dans les forêts de conifères. Et elle aussi, on la retrouve souvent en ville quand il y a des parcs. Après, il y a d'autres mésanges, on ne va pas toutes vous les décrire, mais, parce qu'on les croise moins, mais il y a aussi la mésange huppée, la mésange noire, et peut-être j'en zappe encore.
Oui, qui sont quand même présentes en France, mais qu'on croise beaucoup moins à la mangeoire.
Sincero en tus ojos me perdí, qué torpe distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Neas y Benitín, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar. La sal que sobra. De emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver.
Sobran el mar. Alors, dans la continuité, on va vous parler un petit peu d'un point important, parce que la plupart de ces espèces sont quand même des espèces protégées. C'est le cadre législatif. Alors, concernant le nourrissage, il n'y a pas de loi à proprement parler. On a beau faire nos recherches, pour l'instant, on n'a rien de concret. C'est parce que c'est vrai que les gens nous posent très souvent la question. Alors, ce qui va être plutôt important de savoir, c'est qu'en France, en tout cas, c'est quand même pas particulièrement recommandé de nourrir les animaux en dehors de la période hivernale, ou en tout cas quand les températures sont plus hautes. Pourquoi ? Parce que déjà, comme le disait Hélène tout à l'heure, c'est par rapport au nettoyage des mangeoires qui doit être fait quand même régulièrement pour éviter la prolifération des bactéries. Ensuite, ça va être un petit peu au niveau du comportement. Les animaux sont opportunistes, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qui fait qu'ils auront beaucoup plus d'envie d'aller chercher la nourriture facile. Si on commence à les nourrir en dehors de ces périodes hivernales, ils vont continuer à se nourrir facilement et ainsi de suite. Ce qui fait que, génération après génération, ils vont perdre la faculté de chercher la nourriture. Et là, ça devient dangereux, parce que si un jour on s'arrête pour quelconque raison, ces animaux ne sauront plus chercher la nourriture tout simplement, ce qui va les conduire inévitablement à la mort. Donc, il est important quand même de se rappeler que le nourrissage à la mangeoire est une aide, pas un remplacement. Donc c'est quand même bien de les nourrir en hiver. Ensuite, pour le centre de sauvegarde, nous, on reçoit pas mal de passereaux à l'année, principalement en été, avec les jeunes qui sont tombés des nids et que du coup, on doit élever afin de relâcher. Mais aussi, on reçoit pas mal d'adultes qui, pendant ces périodes-là, quand ils nourrissent les jeunes, font beaucoup plus d'allers-retours entre le nid et la zone de nourrissage. Et ils se retrouvent à taper des vitres, se faire taper par des voitures. Donc c'est vrai que on a pas mal d'animaux sur ce niveau-là. Et en hiver, ça va être principalement les chocs avec les véhicules et les vitres. Exactement la même cause d'arrivée que les rapaces, tout simplement. C'est beaucoup plus de ce genre-là.
Alors par rapport aux mangeoires, moi je voulais juste rajouter qu'il y a les bénévoles de l'association qui construisent des mangeoires, et aussi des nichoirs d'ailleurs. Alors par contre, ils sont en vente au centre, mais à la commande. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter soit par téléphone 05 65 59 09 87 ou en passant par notre site internet centre-secours-faune-sauvage-mio.fr. Alors il faut savoir que Les nichoirs peuvent avoir des intérêts, surtout si vous avez des problèmes de chenilles processionnaires autour de chez vous. Les mésanges charbonnières et bleues raffolent de ces chenilles, et les huppes aussi. Alors par contre, voilà, pour chaque espèce, il y a un nichoir qui va être adapté pour que telle espèce s'y installe ou non. Donc c'est intéressant de se renseigner voilà, de la forme du nichoir, la taille de l'entrée, l'exposition pour l'installer. Donc voilà. Ça aussi, pour des conseils, vous pouvez nous contacter.
Pour presque finir, je dirais, on va passer sur un autre sujet. Comme vous le savez, depuis début 2017, nous sommes en pleine procédure pour obtenir des financements, une aide financière de la part des collectivités pour pouvoir continuer notre action, pérenniser notre mission d'intérêt général. Donc c'est à cet effet qu'on a régulièrement eu des entretiens avec les élus, les responsables des collectivités, ce genre de choses. Et depuis février, nous avions lancé une pétition en ligne et par papier. Et vous êtes un petit peu plus de 6000 maintenant à avoir signé cette pétition, que ce soit en France ou dans d'autres pays, et puis principalement en Aveyron ou dans Millau. Donc déjà, on tient quand même à vous remercier pas mal. Ce qu'on voudrait annoncer aujourd'hui, c'est que le 19 décembre, lors de la réunion du conseil communautaire, nous allons remettre cette pétition, donc aux élus de la communauté de communes de Millau. Donc pour pouvoir justifier un petit peu notre action, nous avons demandé à une bénévole de venir donner son point de vue aujourd'hui dans l'émission. Bonjour Anaëlle.
Bonjour.
Alors, depuis quand es-tu bénévole au centre de sauvegarde ?
Alors, ça fait maintenant un mois que je suis bénévole dans l'association. J'y viens quelques jours par semaine afin de prêter main forte à l'équipe.
Et qu'est-ce que tu fais comme activité finalement ?
Alors là-bas, je vais avoir en charge une partie du nourrissage, de l'entretien. Donc, il y a beaucoup de tâches de nettoyage. Et je vais aussi avoir des missions qui vont concerner la gestion tout simplement du centre. Comme par exemple répondre au téléphone, essayer de donner des coups de main pour la com. Notamment aller faire signer des pétitions et partager notre action et faire connaître l'association.
Voilà, donc c'est quand même, le bénévolat est quand même accessible à tous toute l'année, que ce soit en été pour le nourrissage des animaux ou en hiver pour tout ce qui est communication, papier, ce genre de choses. Viens-tu le 19 décembre nous aider ?
Oui, et bien sûr.
Et pourquoi ?
Oui, bien sûr. Eh bien, tout simplement parce que je trouve vraiment important que l'on se préoccupe un petit peu de notre environnement. On a besoin de l'étudier et de le protéger et tout simplement de vivre en cohésion avec lui. Et la faune sauvage en France, hein, elle est en déclin, c'est pas une nouvelle. Et l'action des centres de soins, elle est primordiale. Ces centres, ils donnent une deuxième chance aux animaux qui sont en détresse. Donc malades, blessés, abandonnés, en difficulté tout simplement. Hein. Et le centre de sauvegarde en question, il ne peut pas se maintenir sans une personne habilitée qui est présente sur le centre. Et donc actuellement, c'est Jean-Claude qui est à la retraite, qui est bénévole à temps plein dans l'association. Il possède le certificat de capacité nécessaire à la gestion du centre et il a 67 ans. Et voilà, aucun poste pour le moment n'est prévu pour prendre la relève. Être bénévole à plein temps, bien sûr, c'est absolument ingérable sans rémunération. Et il est donc nécessaire qu'un poste et demi soit créé afin que l'association se maintienne, que les locaux ne soient pas voués à l'abandon. Et c'est ce qui est demandé aux communautés de communes. Donc voilà, moi je participerai à cette soirée le 19. Nous vous invitons à nous rejoindre, place de la Capelle à Millau. Donc voilà, le 19 décembre à 18h pour nous faire un petit peu entendre. Donc je vous invite à venir avec nous et soyez nombreux.
Voilà, on vise minimum une cinquantaine et on aimerait bien...
Voilà.
Beaucoup plus.
Au maximum.
Voire une centaine, voilà, au maximum. Histoire de se faire entendre. Ben, merci beaucoup, Anaëlle.
Mais de rien.
Et merci à vous de nous écouter. Et puis, au 19 décembre.
La plume.
La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde
de la faune sauvage, Cosona.
Chaque deuxième mardi du mois à 18h,
nous vous présenterons les activités et la vie de l'association. La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cosona.